Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, vous écoutez Salut ça va, le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
On est heureuse d'accueillir à notre micro des invités inspirants qui partagent leurs histoires et parcours de vie.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Alors rendez-vous sur takecareavecunk.co. Bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Richard, enfin notre micro, parce que Mathilde est là.
Il
n'y
a pas de vidéo, du coup je ne sais plus quoi
ouais,
dire.
Ouais, c'est ça, perdu. t'as pas l'habitude de la voix.
Non.
Bonjour Richard.
Mais on est très contente avec Mathilde, donc, que vous avez entendu, d'accueillir Richard. Bienvenue sur notre podcast, on va parler de ton parcours, de la santé mentale, forcément c'est un peu notre dada quoi. Mais nous on se connaît depuis tellement d'années, donc je suis heureuse d'apprendre à te connaître autrement. Est-ce que justement tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
C'est vrai, alors merci déjà de m'accueillir sur le podcast, merci d'avoir pensé à moi. Moi c'est Richard, du coup ça fait 8 ans que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Ça commence à faire, ça c'était combien?
Moi ça fait faire 11 ans.
Et je suis spécialisée plus dans la beauté, maquillage, etc. J'étais l'un des premiers garçons à se lancer dans le maquillage en France, en tout cas sur les réseaux sociaux.
Tu as quel âge aujourd'hui?
J'ai 26 ans, donc j'avais commencé à 18. Célibataire, sans enfant.
Merci et voilà. Pour cette petite présentation. Et est-ce que si on remonte un peu, tu vois, quelques années avant, c'était quoi ton enfance, tes relations familiales? Est-ce que tu es très famille? C'est quoi les souvenirs que tu as de cette période?
Non, je ne suis pas du tout très famille. Enfin, j'adore ma famille, mais on a une relation avec ma maman parce que j'ai perdu mon papa assez jeune, assez pudique. En fait, on dévoile. Enfin, par exemple, tu vois, j'ai jamais dit je t'aime à ma maman. Et ma maman, je pense, m'a jamais dit je t'aime non plus. Ce qui peut être waouh pour certaines personnes et normal pour d'autres. On le sait l'un et l'autre qu'on s'aime, mais on. Enfin, je sais pas, demain, ma maman va me dire je t'aime, je vais être hyper mal à l'aise de répondre moi aussi, je sais pas pourquoi.
Ouais, l'exprimer.
Mais ouais c'est ça, mais c'est parce qu'on était élevés comme ça, on n'a pas été élevés dans la surprotection. Puis ma maman est très pudique sur ce qu'elle ressent, etc. Et je pense que du coup, elle nous a transmis ça malgré elle. Hein. Et c'est pas forcément un mal, enfin, après chacun voit les choses comme il l'entend, mais après on a toujours, j'ai eu une très belle enfance, j'ai eu des petites difficultés du coup, parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans, d'un cancer, donc pas simple pour ma maman, pour ma petite sœur et pour moi.
Ouais, ça a perduré, on va dire, aujourd'hui, vos relations avec ta maman, ta sœur, elles sont toujours proches, mais tu as l'impression peut-être par rapport à d'autres personnes que l'expression des sentiments n'est pas autant démonstratif que.
C'est ça, que ouais, et puis encore proche avec ma maman, maintenant on s'appelle une fois par semaine, mais quand je suis arrivée à Paris, on s'appelait une fois dans le mois ou ce genre de choses. Mais parce que. Je ressentais pas le besoin et pas parce que j'aime pas être au téléphone avec quelqu'un et être là, oui, bah tu fais quoi, super, enfin bref.
Ça ne vous faisait pas souffrir, ni elle, ni toi?
Non, bah peut-être elle, oui, parce que bah, normal, son fils vient de partir de la maison. Moi, non, parce que, après, je suis très comme ça aussi dans la vraie vie, j'aime pas appeler pour rien dire. Ma soeur, c'est encore pire, ma soeur, on ne s'appelle jamais, on ne s'écrit jamais, mais à part bon anniversaire d'ailleurs, c'est demain. Faut que j'y pense.
Le petit rappel.
Mais sinon, non. Mais avec ma soeur, on a, je sais pas, une relation assez. Encore plus étrange qu'avec ma maman. Bah après, j'ai connu que ça, donc je peux pas te dire que j'en suis triste ou pas.
Mais dans tes relations, tu vois, aujourd'hui, amicales ou même pas forcément amicales, mais t'arrives à te dire je t'aime ou pas?
Non.
Ouais, ça c'est.
Pas trop. Je pense que. Je l'ai déjà dit sans le penser, voilà.
Mais c'est bien de le dire aussi. Hein,
je pense que je l'ai dit une fois où je le pensais vraiment, c'était à mon premier petit copain. Mais sinon, non. Et en fait, je trouve que c'est un mot qui se dit pas à tout va non plus. Tu vois, il y a beaucoup maintenant dans l'amitié. Oh, je t'aime trop, ma vie. Non. Oui, non. Moi aussi, mais je vais pas dire je t'aime, tu vois, je sais pas, je trouve ça un mot fort et tu le dis vraiment quand tu le veux,
en tout cas il a une certaine résonance pour toi.
Ouais, exactement.
Tu le gardes pour des occasions et des relations particulières.
C'est ça, ouais.
Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, pour moi, à partir du moment où c'est ok avec toi-même et que c'est pas comme ça que t'exprimes ton amour, enfin je veux dire, il y a aussi les actes, il y a plein de façons de dire je t'aime.
Je suis plus comme ça, je suis beaucoup plus acte que parole.
Ouais.
Et je trouve que, enfin, il n'y a pas de mieux ou moins bien, mais. On dit souvent, enfin les paroles c'est beau, mais c'est les actes qui prouvent.
Ouais.
Mais je suis plus acte, je vais plus être avec des attentions, des petits cadeaux, des petits trucs, des surprises, enfin ce genre de choses que des paroles.
Et t'attends ça des autres aussi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi t'es plus touché par les actes que les mots? Ou pas forcément?
C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je vais avoir un peu besoin des deux, même si pour moi les actes sont plus importants que les paroles aussi. Parce que pareil, un mec qui va me dire je t'aime, je fais super, mais si tu me calcules pas, tu peux m'aimer comme tu veux.
Mais ce que je veux dire, on est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit.
Hein. Ouais. Oui, on est d'accord.
Complètement. C'est un sujet qu'on n'avait pas forcément abordé encore sur le podcast, mais c'est hyper intéressant parce que l'expression de l'amour, tu vois, ça peut être hyper mainstream, enfin vu dans les films, dans les trucs et tout, avec le romantisme, le côté, ou alors au contraire des relations toxiques complètement banalisées, en mode tu dois souffrir pour aimer, enfin ouais. Tu vois. Et ben tu peux avoir d'autres façons, enfin chacun a sa façon.
Et toi par exemple, c'est l'inverse. Je crois que t'es avec ta famille, non?
Ouais, moi je suis très proche.
Ouais voilà, ouais. C'est l'inverse, tu vois. Et enfin, tu vois, je suis pas plus malheureux.
Non.
Enfin, c'est juste que j'ai été élevé comme ça. Et puis, quand tu t'as pas. En fait, c'est pas comme s'il y avait une cassure où là, je pourrais te dire, bah, je suis malheureux parce qu'il y a plus ce qu'il y avait eu. Mais vu qu'on a toujours été élevé comme ça.
C'est ce que t'as connu.
Alors, ouais, voilà. Là, du coup, j'entends qu'au niveau de l'expression de l'amour, etc., t'es plutôt pudique et c'est ok. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Hein. Tant que c'est ok avec toi, c'est ok tout court. Mais est-ce que dans l'expression des émotions de façon générale, est-ce que t'arrives à dire quand t'es triste? Est-ce que t'arrives à dire quand t'as des émotions désagréables, ce genre de choses, ou pas non plus?
Pas non plus.
Ok.
Pas non plus. Je suis très réservée sur tout ce que je ressens. Je sais pas pourquoi. Je saurais même pas dire pourquoi. En fait, j'ai toujours voulu dégager quelque chose de positif, dégager d'un enfant heureux, etc. Même quand mon papa est décédé, enfin, j'ai même pas pu faire mon deuil. Enfin, parce qu'en fait, je sais pas. Je disais, j'ai pas le droit d'être triste. Ma maman l'est. Je peux pas être moi aussi triste en plus. Et je faisais comme si de rien n'était. Enfin,
ouais, t'as des souvenirs de cette période au niveau de ton état. Enfin, tu vois, ta santé mentale. Comment tu l'as géré parce que t'étais super jeune.
Ouais, j'étais jeune et en plus c'était il y avait tout en même temps. Bah, il y avait le décès de mon papa, la découverte de mon orientation sexuelle, le collège, l'harcèlement. Enfin, il y a vraiment eu tout au même moment. Je me souviens que ma maman est venue. Un jour, ma sœur avait quel âge? Attends. Ma sœur, elle avait 8 ans. Ma maman est venue et on savait qu'elle était malade. Hein, et voilà. Mais à ce moment-là, vu que tu n'es pas encore confronté à la mort à cet âge-là, ouais, tu ne connais pas. Et du coup, ma maman vient et me dit « Bon, ben, Célia, Richard, il faut dire au revoir à papa. » Puis moi, j'ai dit « Mais il va où ?» Et puis,
il y a une innocence encore, en fait.
Bah, c'est ça, tu vois. Puis tu ne dis pas « Ton papa va pas... » Enfin, tu ne vas plus le voir. Et elle me dit bah « Non, il faut lui dire au revoir. » Donc, on va lui dire au revoir et tout. Moi, je ne comprends pas. Tu vois, je fais bisous, je vois tout le monde pleure et tout. Bref, puis mon papa, il était très en mode non, je veux pas que tu les amènes parce que j'ai pas envie de le refiler ma maladie, alors que ça se refile pas comme ça. Mais c'était dans sa tête, il avait pas envie. Puis je pense aussi qu'on le voit comme ça. Et 3 jours après, ma maman vient et nous dit à la maison bon, ma papa est parti, il est mort. Moi, bon, j'ai. Enfin, ah d'accord. Mais je sais pas, en fait, je pense que je réalisais pas. Mais par contre, l'enterrement, ça a été plus dur. L'enterrement, c'est là où je pense que je me suis.
Mais d'où l'intérêt des enterrements?
Ouais.
Ils sont hyper importants parce que ça ritualise un peu quelque chose.
Ça ritualise et ça te fait prendre conscience. Parce que, surtout quand t'es jeune, maintenant, mais même encore maintenant.
Et c'est essentiel dans le processus de deuil.
Mais c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes pendant le Covid quand on a interdit les regroupements familiaux pour les enterrements et tout. C'est.
Ça permet d'évacuer un peu tout ce que t'as en toi. Après, à l'école, on se moquait de moi par rapport à ça. Mais oui, ton père, il est mort parce que t'es comme ça, parce que t'es comme si. Il doit se retourner dans sa tombe en voyant qu'il était. Non, c'était un peu l'enfer. Et du coup, ouais, je l'ai vite switch. Après, que mon papa n'était pas très très proche. Il était plus proche de ma sœur et moi plus proche de ma maman. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Je sais qu'à l'heure actuelle, on en a parlé il y a pas longtemps, ma sœur le vit plus mal, qui est plus mon papa. Je ne vais pas dire que je le vis super bien, et tant mieux qu'il ne soit plus là, loin de là. Mais je pense qu'à contrario, si ça aurait été ma maman, ça aurait été 1000 fois plus dur.
Ouais.
Parce que,
vous étiez... Ouais,
mon papa, il avait la figure de l'autorité, il travaillait. Enfin, ce n'est pas lui qui jouait avec nous. Enfin, ce n'était pas la même relation qu'il avait avec nous, ses enfants. Et je pense que c'est ce qui a joué de moins dans mon processus avec
de
ça.
De construction. Ouais.
Mais non, écoute, il est mort et j'ai fait avec et puis, puis voilà. Je me dis que maintenant, qu'il soit fier un petit peu de ce que je fais et de ce que je suis devenue. Et puis,
oui,
voilà.
Parce que sacré parcours du coup à ce moment-là. À quel moment toi, tu as commencé à consommer du contenu justement sur les réseaux? Parce
sur
que
YouTube.
Comme tu dis, à l'époque, c'était pas du tout démocratisé déjà qu'il y ait des hommes dans le milieu du lifestyle, encore moins dans le milieu de la beauté, dans le milieu du maquillage. Ça arrive aux États-Unis, mais en France beaucoup plus tard. Toi, quel moment tu as consommé ce contenu et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie?
Un peu quand vous avez commencé, les pionnières. du coup, tu as commencé en quelle année? 2012
Fin 2010.
Ah, 2010, ouais. Punaise.
2011, quoi.
Je pense que 2011-2012, j'ai dû commencer à découvrir ça. J'avais tapé comment enlever l'acné sur YouTube, parce que j'avais de l'acné. Et j'étais tombé sur des vidéos de YouTubeuses, j'avais testé. À l'époque, alors que de base, la beauté ne m'attirait pas du tout. Hein. Je me lavais le visage avec du gel douche, tout ce qu'il ne faut pas faire. je m'en foutais complètement. Et je ne sais pas, ça m'a pris, mais d'un coup, j'ai vu des vidéos, j'ai commencé à appliquer les conseils, et après un petit peu de correcteur, un peu de sourcil, et puis on sait comment ça a fini. En fait, à ce moment-là, j'étais en apprentissage, parce que moi, je n'aimais pas l'école. J'ai arrêté l'école au collège, j'ai passé ensuite en apprentissage, j'ai fait un CAP et un brevet professionnel en restauration, pas côté cuisine, mais côté service en salle, parce que j'ai toujours aimé le contact avec les gens, etc., et j'aimais bien. Et je pense que je m'épanouissais pas tellement là-dedans. Bah, ça m'a fait sortir un peu de ma bulle, et ça m'a fait m'épanouir, en fait, de découvrir le monde de la beauté. Ça peut paraître super superficiel en disant ça, mais c'est vrai, mais pour moi, ça m'a...
C'est un centre d'intérêt qui t'a parlé, dans lequel voilà, t'as pu t'épanouir, et c'est...
Exactement. Ouais. Et du coup, oui, c'est un peu au moment où vous avez commencé, 2011, 2012, j'ai découvert ça, et ça m'a pris d'une passion, je faisais ça du matin au soir, j'ai regardé des vidéos du matin au soir, je saoulais ma mère, regarde, elle,
ouais.
Ma pauvre mère.
Mais à l'époque, t'avais pas encore l'idée d'en faire toi?
Non, je voyais les autres faire, ouais. Et puis bah, pour le coup, vous étiez des stars, à l'époque, c'est différent par rapport à maintenant, je trouve, ouais. Vu que vous étiez pas beaucoup et que c'était pas accessible encore, enfin, tout le monde n'osait pas le faire vu que c'était le début.
Ouais, il y avait un côté où il y avait, enfin, on avait une communauté,
enfin, pas star, mais comment,
oui, je sais pas comment dire. Dans le sens où
c'est un peu impressionnant, tu te dis, mais ouais. Oh, elles ont une caméra et tout, elles se filment, elles se mettent en scène et tout, c'est fin, c'est dingue, quoi. Je me souviens que j'ai même été au Meetup d'Enjoy Phoenix en je sais plus quelle année, mais bref, pour te dire, genre, j'aimais vraiment beaucoup le contenu des youtubeuses.
Ouais, c'était un univers qui te parlait.
Ouais, exactement. Et je me suis dit, je sais pas comment, parce qu'en plus à l'époque où il y avait même pas encore tout ce qui est James Charles et compagnie aux États-Unis, il y avait Patrick Starr, je crois, et encore. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai dit, bah ouais, c'est vrai, allez, teste, et puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis.
Et t'avais pas peur du regard des autres par rapport à, tu vois, ce que t'avais vécu sur le harcèlement, tout ça? Y a pas eu un moment où tu t'es dit, est-ce que ça va pouvoir m'atteindre encore plus psychologiquement?
Et ben, bizarrement, je me suis dit que vu que je l'ai connu en vrai, les réseaux, ça fera pas grand-chose.
Ouais, t'as
vécu. Mais comment tu l'as vécu, ce harcèlement-là?
Bah pareil, j'en parlais pas. Si je gardais tout pour moi, ma maman est au courant, parce que j'en commence à en parler depuis l'année dernière dans différentes interviews, et elle l'a pris là, hein. Je n'ai jamais parlé à ma maman, j'en ai jamais parlé à ma famille. En fait, vu que ça arrive en même temps que le décès de mon papa, je me suis dit, j'ai pas envie de lui apporter d'autres mauvaises nouvelles, qu'elle ait d'autres problèmes.
T'étais en protection, hein, vis-à-vis de ta maman.
Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et puis, j'avais pas envie aussi de passer pour la victime, je pense. Et j'en avais parlé une fois à la CPE et ça a été encore pire derrière parce que ça s'est su que j'en avais parlé, donc je passais pour à la victime, il se plaint, etc.
Et en même temps, les gens qui subissent du harcèlement sont des victimes, hein. Enfin, on va,
oui,
sans, mais t'as pas envie, sans qu'il y ait de termes péjoratifs au terme de victime,
de te considérer comme la victime, bien, parce que,
oui,
malheureusement,
mais ça complètement, non. Et puis en plus, dans le harcèlement, enfin, c'est très particulier, il y a quand même ce truc là souvent de les personnes harcelées minimisent souvent le harcèlement qu'elles vivent, ouais. Et en plus de ça, ils arrivent à le justifier ou à l'excuser en se disant, oui, mais c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, ou c'est parce que je suis comme ci, ou c'est parce que je suis,
oui,
comme ça.
Oui, puis pour eux, c'est de l'amusement la plupart du temps. Parce que moi, voilà, c'était un harcèlement particulier. Enfin, j'étais avec un groupe de filles, parce que je ne me suis jamais entendu avec les garçons. Et en fait, bah, c'était selon leurs humeurs. Tu vois, des jours, ça pouvait être super sympa, on s'entendait super bien. Et des jours, en fait, je pouvais être leur bouc émissaire, à se foutre de moi, à m'humilier en public, même des fois à me frapper. Puis bah, moi, je me laissais faire, quoi. Parce que ben, j'ai jamais été très bagarreur et compagnie. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, bref. Et non, c'est, puis après, de l'humiliation en mode ton père, il est mort, genre à me faire vraiment limite comme dans les films, me faire pointer du doigt dans la cour avec un cercle autour de moi, quoi. Donc je me réfugiais des fois des récré entières dans les toilettes pour passer à récré tranquille, et puis elle tapait, attrapait à la porte des toilettes et tout. Genre,
mais
c'était.
Moi, je trouve ça fou qu'il n'y ait aucun, c'est adulte, fou, qui intervient.
Bah, les adultes voient, mais ne faisaient rien, en fait. C'est, oui, ils s'amusent, non, c'est rien, il y a plus grave. En fait, c'était.
Oui,
pas,
c'est minimisé, c'est
ça.
Ouais,
c'est minimisé,
vraiment,
ouais.
C'était banalisé. Ouais.
C'était banalisé.
On commence à en parler juste,
merci,
là.
Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui en meurent, en fait.
Ouais. Ouais. Et puis en plus, les réseaux sociaux sont arrivés, il y a eu du cyberharcèlement.
C'est ce
et
que
ça,
j'allais
ça
dire. Moi, je suis heureux de ne pas avoir eu. Enfin, il y avait MSN et Skyrock, mais ça, c'était pas ça. Mais c'était pas comme maintenant. Mais moi, j'imagine même pas ce que peuvent vivre les jeunes maintenant avec les réseaux sociaux en plus. Parce que moi, ça s'arrêtait aux portes du collège. Je rentrais chez moi le soir. Bah, ouais. Je pouvais tranquille, souffler, penser à autre chose. Mais eux se font persécuter. Parce que moi, je venais d'avoir un téléphone, mais c'était pas la même chose que maintenant.
Non, c'était pas pareil, ouais.
Dieu merci.
Donc, tu comptais tes caractères sur les SMS.
Ouais, c'est ça.
Oui. C'est ça.
Pour être sûr que ça ne dépasse pas un certain...
Exactement, punaise, on a connu ça. Mais non, c'était pas une partie très joyeuse. Mais dès que j'ai quitté le collège, après, c'est parti.
Non, du coup, t'as pas été au lycée.
Bah, j'étais au CES, ça s'appelait, c'est un centre de formation, ouais, où j'allais une semaine par mois. Et non, non, là-bas, très bien. En fait, je pense que je me suis aussi affirmée. Parce qu'on se moquait beaucoup de moi. Parce que je traînais avec des filles. Je mettais des t-shirts roses. Enfin, c'est très cliché. Hein. Enfin, on me traitait vraiment de pédé. Et moi, je dis. Enfin, en plus, tu sais, tu te découvres et tu te dis, non. Mais moi, je disais, non, je le suis pas. Mais parce que j'avais pas envie de l'être.
Ouais,
tu
vois, pour toi, c'était pointé du doigt comme.
Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, c'était pas bien, tu vois, vu que tout le monde se moquait de moi par rapport à ça. Enfin, je me suis dit, non, mais Richard, faut pas que tu sois comme ça. Enfin, non,
comme
c'est
si
pas
on
bien,
avait
quoi.
Le choix.
Ouais. Oui,
il y a des personnes qui sont persuadées que c'est le cas. Hein. Enfin, je veux dire, dans beaucoup de discours complètement homophobes.
Enfin, pourquoi on choisirait de subir tout ça au lieu de voir une vie tranquille? On a d'autres objectifs dans la vie.
Mais comment ça s'est passé pour toi, cette découverte de toi et tu vois, de t'affirmer par rapport à ton orientation sexuelle, l'annonce à tes proches si tu en as parlé?
En fait, ça c'est. Moi, je pense que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé en 5e, 4e. Où je me rendais compte que c'est plus les garçons qui mettent ça avec les filles. Enfin, j'avais quelque chose avec les garçons qu'avec les filles, j'avais pas. Et je me forçais à sortir avec des filles au collège pour montrer à tout le monde que j'étais pas homosexuel. Ouais. Ensuite, en quittant le collège, j'avais quoi ? J'allais avoir 15 ans. Donc déjà, tu t'affirmes un peu plus. En plus, j'avais rencontré mon premier petit copain sur Facebook à l'époque, qui lui habitait à Paris. Moi, j'habitais dans l'Est de la France. Donc on n'habitait pas à côté. On a vécu une relation à distance pendant 2 ans et demi quand même.
Ah ouais, hein.
Ouais, c'était mon premier petit copain, la première fois, à Total, quoi. On s'était rencontrés sur un groupe de fans de Lady Gaga, parce que je l'adore, et puis il l'adorait aussi. Il fallait qu'on se voie. Et moi, j'avais 15 ans, et ma mère n'avait pas me laissé partir à Paris à 15 ans, tout seul.
Et t'es au courant de ta relation?
Non. Non. Non, à ce moment-là, personne ne savait. Il n'y avait que moi, même mes meilleurs amis ne savaient pas, il n'y avait que moi qui savais. Et j'ai dû... lui dire, mais maman, je veux aller à Paris, etc. Et tout. Mais pourquoi tu vas à Paris? Mais je lui dis, mais parce que il y a des choses avec Lady Gaga, etc. Et elle me dit, mais t'as 15 ans, tu vas pas aller à Paris tout seul, moi je vais t'accompagner. Et là, je fais, non. Et du coup, je repoussais. Et en fait, ce qui s'est passé, comment elle l'a su, ce que j'ai pas, je l'ai pas moi qui l'ai dit volontairement à ma maman. Un soir, j'étais au téléphone fixe. Et on parlait avec Thomas, et j'avais appuyé sur un bouton sans faire exprès. Bref, rien ne se passe, tout se passe bien. Le lendemain matin, je rentre de l'école. Ma maman, à la cuisine, un peu bouleversée, me dit « Elle s'appelle comment déjà ta copine, Richard ?» Puis moi, j'ai inventé toujours le prénom. Je dis « je sais pas, Julie. » Et là, elle me fait « C'est pas plutôt Thomas ?»
Ouais, là.
Blanc. Genre, je me dis « bégayé, bien sûr. » Et je dis « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Et tout. Et en fait, le bouton sur lequel j'avais appuyé, en fait, j'avais enregistré notre conversation. Oh. Et ça avait apparu comme un nouveau message sur le répondeur le lendemain.
Ah ouais.
Je sais pas comment je me suis démerdé. C'était un signe.
Je savais même pas que c'était possible de le faire.
Moi non plus. C'était un signe du ciel pour que voilà, ça soit fait. Et elle me fait écoute. Et là, j'entends moi, je me dis ouais. Et là, j'entends lui. Je fais je suis gay. Ouais. Et là, elle pleure. Moi, je viens dans ma chambre pleurer aussi. Pendant une heure, on est restés chacun de notre côté. Je suis revenu la voir. J'ai dit mais du coup, tu m'aimes plus. Et elle me dit mais c'est n'importe quoi. Mais t'aurais pas pu être normal. Enfin, bref, elle a dit ça comme ça, mais elle accepte totalement mon homosexualité. Enfin.
Mais c'était sous le coup de l'annonce. Oui, parce voilà, qu'à l'époque, c'était pas autant démocratisé dans le sens.
Oui, puis il y a aussi des parents qui ont peur pour leurs enfants.
Ouais.
Dans le sens où ils savent que.
Et puis qu'ils connaissent
que
pas
la
aussi.
Vie derrière est différente, tu vois.
Oui, parce que c'est.
Parce que c'est pas accepté forcément, enfin, oui, c'est discriminant.
Ouais, complètement. Oui.
Mais après, elle l'a tout de suite bien pris, elle l'a vu plusieurs fois, enfin, maintenant elle est totalement ok avec ça. D'ailleurs, ma sœur a eu une phase bisexuelle il n'y a pas longtemps aussi, donc je lui ai dit, voilà maman, on est une famille LGBT. C'est
on
quoi
adore.
LGBT
Bref. Et ouais, du coup, est-ce qu'elle est un peu engagée malgré elle, entre guillemets? Est-ce que tu sens que ça a permis un cheminement pour elle?
Oui, ouais. Oui ça, je pense que ça lui a fait un peu ouvrir... les esprits là-dessus. En fait, je pense qu'elle avait un peu des discours homophobes banalisés. Mmh. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, comme le racisme.
Oui, elle
n'était
pas foncièrement homophobe, mais c'était des choses qu'elle entendait, qu'elle répétait.
Oui, voilà, c'est ça. Ou, enfin, tu vois, dire le mot pédé plus facilement que le mot gay, par exemple, ou homosexuel, tu vois. Ouais. Mais je pense que... c'est ma maman, donc bien sûr que non, je n'en veux pas. Et même encore maintenant, tu vois, ça peut sortir de sa bouche. Mais je me dis, c'est une autre génération que la nôtre actuelle aussi, ce qui n'excuse pas tout non plus. Mais je sais que c'est pas de sa bouche, c'est pas malveillant. Oui. J'essaye de lui dire, de la corriger à chaque fois et de lui dire.
Oui, tu sens qu'elle veut pas te nuire.
Non, c'est pas méchant.
Ouais, c'est pas une insulte dans sa bouche.
Non, voilà,
c'est un peu un abus de langage de. C'est parce que
comme
oui,
comme beaucoup de choses, comme le racisme ordinaire, comme plein de choses. Mais en tout cas, non, elle a tout de suite bien pris et m'a toujours soutenu là-dedans. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. C'était même pas une annonce, c'était malgré moi.
Des fois,
est-ce que ça t'a pas soulagé?
Ah si, en fait, dès que ma maman l'a su, après j'ai pu être qui j'étais.
Ouais.
C'est dès que ma maman l'a su, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit, pas à tout le monde, mais enfin, en gros, j'osais être moi-même. Parce
oui,
que si ma maman ne le savait pas, personne ne pouvait le savoir. C'était, je pouvais pas le dire à mes amis, par exemple, avant que ma maman le sache. C'était impossible. Parce que si ma maman l'apprenait de quelqu'un d'autre, je sais pas, je trouve que c'était pas cool. Et une fois que ma maman l'a su, après...
Ça t'a ouvert une porte.
Ouais.
Ok.
Ouais, donc, de possibilités, j'imagine.
Ça, ça m'a aidé dans l'acceptation de moi. Et aussi, du coup, Lady Gaga a beaucoup joué dans l'acceptation de moi.
Oui, c'est vrai qu'elle a eu un rôle
ouais.
très important parce que je pense que ça a été une des premières artistes à vraiment prendre position de manière très claire et,
oui, c'est
et
ça.
Assumée, tu vois, sur bah, les droits, en fait, des personnes LGBT.
Les droits, puis la différence. Ouais. Maintenant, c'est un peu le mantra et le claim de tout le monde d'être « Ah, t'es différent, c'est bien.
Ouais. »
enfin, mais à l'époque, en 2008-2010, il n'y avait pas beaucoup qui se mouillaient, entre guillemets, pour affirmer ça. Et moi, c'est pour ça que je me suis totalement reconnue en elle. Au-delà de sa musique, c'était plus sur la personne, à dire sois fier de qui tu es, et t'es
née
comme ça,
hein.
etc. Mmh. Et quand je la voyais, elle, je me dis, bah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas comme toutes les autres popstars qu'il peut y avoir. Elle a été inspirante, et elle m'a aidé beaucoup malgré elle. Et je pense que les personnes qui n'ont pas connu ça avec des artistes ne peuvent pas comprendre. Heureusement qu'elle a été dans ma vie, par exemple. Tu vois, ça peut paraître très fort, hein, mais heureusement qu'elle a été dans ma vie. Et elle m'a construit, je pense, parce que j'étais tellement pas très bien à l'époque dans mon corps, dans mon orientation sexuelle, dans ma tête, que je faisais que ça, elle. Et après, les tutos beauté, c'est venu à peu près en même temps. Que tout ce mélange des deux m'a permis de...
thérapie.
Exactement, ouais, exactement.
Non, mais je pense que tu t'es construit un environnement, en fait. Alors, à l'époque, je ne sais pas si on pouvait dire digital, parce que, tu vois, bon, c'était les débuts de YouTube, etc. Mais un autre environnement qui te correspondait, qui était aligné avec tes valeurs, avec ce vers quoi tu voulais aller, et qui te permettait de te sentir bien, en fait.
Plutôt que la réalité, ouais.
Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où tu vois, t'es pas dans un excès de tu t'échappes d'une réalité pour vivre dans une autre,
oui.
Non, c'est ok quoi.
Tu gardais quand même beaucoup de choses pour toi, donc on peut vite se sentir seul en fait, hein, quand on se retrouve avec à garder pour soi, à pas en parler, à être dans un souci de protection vis-à-vis d'un parent, à pas se sentir complètement à l'aise dans le milieu dans lequel on évolue. Enfin, on peut se sentir seul, ouais.
On a besoin d'échappatoires. Et du coup, donc à cette époque, tu regardais donc des vidéos sur YouTube, puis à un moment donné, tu t'es dit pourquoi pas moi. C'est vrai qu'entre le contenu de tes débuts, parce que moi je t'ai suivi quand même depuis
un
petit moment,
c'est vrai.
Et maintenant, il y a vraiment une évolution qui est incroyable parce que forcément, tu as grandi, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même une voix que tu portes à travers ton contenu, mais tu fais passer des messages au-delà du tuto beauté. Comment est-ce que toi, tu le ressens, ce parcours-là ?
Enfin, je pense qu'en tant que créateur, on ne se rend pas vraiment compte. Tu vois, comme quand on te dit...
Ouais.
Oui, puis comme quand on te dit... tu portes ça comme message ou tu as ça comme impact. Moi, pour moi, je me dis toujours que j'ai pas d'impact. Et quand on me dit j'ai acheté ce gloss parce que t'en as parlé, je me dis ah ouais, tu m'écoutes. Enfin, ça m'étonne toujours qu'on m'écoute vraiment, alors que c'est mon métier aujourd'hui et que si c'était pas le cas, je pourrais pas faire mon métier. Mais moi, ça m'étonne toujours qu'on m'écoute parce que vu que j'ai toujours été, je me suis toujours considéré un peu comme le vilain petit canard ou tu vois, comme moins bien que les autres. Tu vois, je me suis toujours dit que ça pourrait pas être moi qu'on écoute, tu vois. Non, après, oui, il y a eu une évolution. En même temps, Dieu merci, en 8 ans, j'ai évolué. Et j'ai toujours voulu faire passer un petit peu le message que Lady Gaga m'avait fait passer, entre guillemets, à dire peut-être que soyez tous fiers de qui vous êtes. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous. Soyez qui vous voulez être, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, oui, on vient souvent me dire le message qui me fait souvent sourire et qui me fait trop plaisir, genre t'as un peu été notre Lady Gaga, qu'elle a été pour toi. Je fais non, mais vous pouvez pas dire ça, parce qu'elle a vraiment, ça a vraiment été fort pour moi. Mais
peut-être que ça a été aussi
oui,
fort pour eux.
Mais ouais, mais je me rends pas compte. C'est super drôle, mais j'arrive pas à me dire que il y en a, je les aide. Alors que c'est le but, tu vois, au final.
Je suis sûre que t'as plein de témoignages de personnes qui disent merci.
Mais oui, merci. Ou même des personnes qui m'ont dit, avant, j'avais un mauvais œil sur les mecs qui se maquillent, ce genre de choses, et t'as réussi à me faire changer ça, etc. Moi, ça me fait super plaisir. Parce que je me dis, je l'ai fait malgré moi, sans être en mode, c'est pas bien.
Oui, mais il faut, à un moment donné, une certaine... se confronter au regard de l'autre pour s'en affranchir, hein, mais c'est pas évident. Hein.
Ah non, c'est...
C'est pas évident, quoi. Ça demande de passer outre la peur, et même si on a peur au départ, ce qui est normal. Mais c'est pas évident et tu l'as fait.
Ouais. Ça a été limite, comme tu disais, thérapeutique. En fait, quand on est sur les réseaux, on sait, tu vois, qu'on a eu par ailleurs ce que tu as vécu, du harcèlement, etc. Bien sûr, tu as un côté quand même un peu dark des réseaux où tu peux, surtout quand tu défends ou que tu es toi-même hors de la norme, entre guillemets, tu peux faire face à des critiques, à de la haine, etc. Mais il y a quand même toute une part d'inspiration qui est énorme. Et je pense que c'est ce à quoi on se raccroche. Je sais pas si toi, tu as mal vécu des commentaires ou la haine en ligne, ou comme tu disais, tu étais déjà blindé par rapport à ça.
Non, je m'en suis détaché très facilement. Au contraire, même ça m'encourageait à faire plus.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais. Parce que au début, mes vidéos, il y avait plus de dislikes que de likes, par exemple. Il y avait les commentaires, c'était horrible. Genre, mais même à l'heure actuelle, alors que c'est plus banalisé maintenant la haine sur les réseaux, à l'époque, c'était vraiment différent. Maintenant, les hommes avec le maquillage, c'est normal sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, ça l'était vraiment pas. Enfin, je me prenais la haine de tout le monde, c'était un enfer. Des va mourir, va te pendre, t'es une femme, t'es pas un homme, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment. Mais je sais pas, en fait, ça m'a toujours passé au-dessus. Parce que je me suis dit, vu que je l'ai connu en vrai, des messages sur internet.
Ouais, c'est des inconnus, ils m'empêcheront pas d'être.
C'est ça, puis vu que j'ai jamais rien eu en face à face, tu vois, j'ai jamais eu un hater et il y aura vraiment un hater qui viendra te dire en face ce qu'il pense.
Oui.
Je me suis dit, bon. Justement, c'est de la motivation, vu que je dérange, ben, je vais continuer à déranger et jusqu'à ce que ben, ce soit plus dérangeant, mais normal.
Et tu vois une évolution quand même dans la part des réactions, tu vois, par rapport à tes vidéos, tu sens que ça avance ?
C'est ce que je disais, c'est à l'époque, les garçons qui se maquillent, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. TikTok aussi a beaucoup démocratisé tout ça, parce que même avant TikTok, on était peut-être 4-5 en France à faire ça sur les réseaux sociaux, en tant qu'homme qui se maquille. Maintenant, grâce à TikTok, ça s'est encore plus démocratisé, et tant mieux. Mais ça c'est maintenant, il n'y a même plus vraiment de commentaires. Il y en a encore quelques-uns, mais il n'y en a plus vraiment de commentaires qui sont portés là-dessus. Et tant mieux qu'il y ait une évolution dans le côté positif et pas négatif. Mais c'était sûr, ça a commencé avec les États-Unis, c'était sûr que ça allait découler.
Oui, on a
ensuite
toujours un petit temps de.
Mais dans la tête, ton engagement, au final, c'est ce qui fait que ça t'anime aujourd'hui, ça donne du sens aussi à ce que tu fais. C'est aussi ça qui fait que tu portes ce message-là. Quand on dit malgré que tu portes quelque chose, c'est que.
Oui, malgré moi, pour le.
Aller au-delà des critiques et dire, mais en fait, moi, j'accepte ma différence et je la montre pour montrer que c'est pas censé. Enfin, vu comme une différence anormale, c'est ce que tu
bah, en fait c'est normaliser les choses pour que ce ne soit plus une différence. Enfin, c'est toute l'idée aussi des réseaux sociaux et de la diversité des corps, des orientations sexuelles, des origines, des métiers, c'est aussi une possibilité de montrer ce qui existe d'autre, parce que quand on a grandi dans un environnement, une famille, un village, et même pas forcément, mais à partir du moment où tu es entouré de personnes qui te ressemblent et qui ont les mêmes vies, les mêmes accéder à autre chose, ça c'est une sacrée ouverture d'esprit. Je pense que c'est ce qui a permis aussi toute cette génération là, c'est passé par plein de choses différentes, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que les nouveaux formats comme TikTok etc te donnent une horizon sur le monde qui va parfois du meilleur au pire, on est bien d'accord, mais c'est
ça te montre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles en fait,
qui existent. Non,
ça peut faire peur d'avoir autant de possibilités aussi devant soi, mais
mais
en même temps c'est réconfortant dans le sens où en fait tu peux être qui tu veux.
Ouais, c'est ça, ça offre une
pouvoir s'identifier à liberté, parce que le problème avant, c'est qu'avant les réseaux sociaux, on s'identifiait aux mannequins, on s'identifiait aux acteurs, aux chanteurs, mais c'était très souvent 90% des cas un peu tous le même style. Et il n'y avait pas vraiment de différence dans ses personnalités.
C'est inaccessible en plus, c'est très showbiz.
Et ce qui a apporté les réseaux sociaux en plus de tout ça, les youtubeuses, les youtubeurs, c'est ce côté, je peux m'identifier à cette personne, je peux m'identifier à lui. Parce qu'en plus, on a ce côté très accessible pour le coup, qui est. En fait, il n'y a plus. Enfin, ça dépend. Après, pour moi, ce n'est même pas une histoire de génération, ça dépend plus de l'influenceur, ce côté accessible ou non. Mais, tu vois, il y a juste une caméra qui sépare la personne. Et on parle très simple. Enfin, c'est pas comme une star du show business, comme tu dis.
Je sais ce que tu veux
dire. Du coup, je pense que ça a permis des gens de s'identifier et de se dire, comme moi j'ai pu dire, S'ils le font, je peux le faire. Exactement. Et pareil pour d'autres personnes. Ouais. Après, je dis pas que tout le monde doit se lancer sur les réseaux sociaux, c'est
non,
pas le but.
Non, sans s'exposer forcément, mais tu vois, je pense que y a, t'as pareil, permis quoi. Aussi à des hommes de se maquiller et de se dire que c'était ok.
Oui, et d'assumer.
Et ouais, voilà. Et d'assumer que ce soit plus quelque chose qu'ils doivent, tu vois, cacher
ouais.
et avoir honte. Moi, j'aimerais revenir sur là une période très récente du coup que t'as partagée sur les réseaux sociaux, mais ce changement d'hygiène de vie et de style de vie très actif. Comment t'arrives à gérer aujourd'hui ton boulot, voilà, l'exposition sur les réseaux avec tout le contenu que ça demande et une hygiène de vie où tu fais beaucoup de sport et tout ça, comment est-ce que ça participe à ton bien-être aujourd'hui?
Alors on va remonter en 2020 avant. 2020 c'était la bon après comme pour beaucoup hein, mais vraiment une année horrible, enfin c'était je pense une des pires que j'ai pu connaître. Parce que enfin il s'est passé plein de choses entre déjà tout ce qui est sanitaire, etc. Enfin on était tous bloqués chez nous. Moi j'ai eu des soucis personnels, j'ai eu des soucis de santé. C'était vraiment une année qui m'a fait descendre au plus bas que je pouvais être en fait, et où j'ai perdu toute estime de moi, toute confiance en moi. Et pour moi j'étais juste je disais grossièrement, mais la dernière des merdes, et voilà. Mais quand on arrive à ce stade-là, on peut que remonter. C'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas le voir de façon négative. Et même à ce moment-là, en fait, je me disais, non, ça allait. C'est maintenant, ce que je disais la dernière fois à une amie à moi. Là, je me disais, mais en fait, à l'époque, je disais que ça allait, mais ça n'allait pas du tout. Mmh. Et je ne mentais pas, je ne disais pas que ça allait pour faire style, que ça allait.
Non, mais
tu as
été habitué à fonctionner comme ça.
Ben oui, c'est ça. Je me persuadais que ça allait. Je me suis dit, ben, il y a pire. Je vais bien, etc. Donc, bref. Et je sais pas, en fait, fin d'année dernière, donc fin 2021, à force, moi j'ai quitté mon CDI parce que je travaillais chez Sephora dans la communication depuis 2014. Donc, j'ai démissionné l'année dernière. J'ai commencé dans les magasins, après j'ai fini dans la communication, dans les bureaux. Et j'ai démissionné parce que ça faisait très longtemps que je faisais la même chose. Et j'avais jamais connu en fait ce côté influenceur à plein temps en fait, de juste pouvoir créer du contenu, faire que ça, faire deux métiers, c'est quand même pas simple hein.
Surtout que
c'était deux boulots prenants. Donc j'ai dit allez, on va tout valser, allez on teste, parce que moi j'ai très peur de l'avenir. Ça fait des années que je pensais à partir, mais j'ai toujours eu peur. Je me suis dit ouais, mais imagine le jour où tu quittes Sephora, t'as plus de revenus fixes et les gens vont te détester, les marques vont te détester, tu vivras plus de ça. Enfin j'ai toujours eu peur. Et là je me suis dit écoute Richard, faut oser dans la vie, tu dis ça aux gens, donc fais-le aussi. Donc pour ce côté-là, tout va bien, mais ça fait déjà un changement. Et fin d'année dernière, j'arrivais plus à poster des photos de moi sans les retoucher de façon extrême. Parce que je me trouvais horrible, je me trouvais, bon désolé pour les termes, hein, mais énorme. Enfin, moi en tout cas, je me sentais vraiment pas à l'aise avec moi et à l'aise dans mon corps. Et ma confiance en moi diminuait de plus en plus. Et j'arrivais même plus à en poster des photos, donc à en faire mon travail, j'arrivais plus à faire tout ça. Et après, encore une fois, c'est personnel à chacun. Moi, je dis ces termes-là parce que ça, je parle de moi. Hein, j'ai eu le déclic parce que j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Et le médecin m'a dit, attention, parce que moi, c'était par rapport au poids. Prenez du poids, ça peut être problématique pour votre santé si vous continuez comme ça. Et là, tu te dis, ah, bon, je me suis pesé, j'ai vu le poids, j'ai fait ah, deux fois. Et du coup, je me suis dit, bon, Richard, t'es pas bien. Clairement, t'as une hygiène de vie déplorable. Je faisais que des Uber Eats matin, midi et soir et c'était pas pour manger des salades. Hein. C'était pizza, burger, machin, pas de sport.
Ouais, ça t'apportait pas de plaisir.
Mais non, c'était devenu... Je mangeais pour manger, en fait. 1er janvier, j'ai dit, allez, 2022, tu vas te sentir mieux. Et 1er janvier, j'ai commencé le sport, j'ai pris un coach. J'ai commencé à me refaire à manger plus sainement. Et ça m'a fait du bien. Là, ça fait du coup 3 mois et demi que j'ai changé tout ça. Mais les bienfaits, en dehors que physique, parce que oui, du coup, j'ai perdu du poids, je me sens plus à l'aise dans mon corps et je me sens beaucoup mieux. Et ça, c'est très cool. Mais même dans la tête, c'est fou. Enfin, moi, je pensais pas à tous les fit girls qui disaient oh, « Le sport, ça change la vie ». Oui, oui, bien sûr. Mais si, c'est vrai que ça change un peu.
Parce que ça te correspondait, en fait.
Parce qu'en fait, lien avec toi.
Voilà, t'as pris du plaisir à le faire. Et c'est ce qu'on dit souvent. En fait, le sport pour le sport, si t'en fais, mais que fondamentalement, tu n'aimes pas le sport, non, ça va pas te faire du bien.
Tu vois pas du sens.
En fait, c'est ce que je dis, faut avoir le déclic, sinon tu ressens pas le truc.
Il faut prendre, en tout cas, plaisir dans le processus. Si c'est, tu vois, parce que t'es stressé, que tu te dis que ça va être une manière d'évacuer ton stress, ça peut être ok. c'est pas forcément que physique, etc. Mais toi, ce qui a compté, c'est que, en fait, ton hygiène de vie ne te convenait plus, ouais. Et que ça a été un moteur pour changer. Et j'imagine peut-être que le fait de te faire accompagner avec un coach, etc., ça, c'est aussi une autre dimension parce que t'es moins seul.
Ben après, je le vois pas souvent, je le vois une fois toutes les deux semaines parce que pour moi, ça n'a rien à voir quelqu'un à côté de moi qui me regarde faire du sport. C'est surtout d'en avoir un pour pas faire n'importe quoi. Parce que j'y suis allé seul au début, puis il y avait des autres adhérents de la salle de sport, ils me font oh là là, je fais pas très bien. Donc, je me suis dit, prendre un coach pour pas faire n'importe quoi surtout. Le fait de faire du sport et de manger mieux, bah tu dors mieux. Et c'est là où tu vois que le sommeil, c'est la clé, mais de tellement de choses. Parce que ben, du coup, moi je dors, j'ai un sommeil catastrophique aussi. Enfin, avant, du coup. Ce changement, je pouvais m'endormir à 2h du matin et me lever à des midi, comme me coucher à 4h du matin et me lever à 7h parce que je dois me lever pour travailler. Enfin, j'avais jamais eu un bon sommeil. De cette manière, j'ai toujours eu un sommeil assez mauvais, plein d'insomnie, enfin bref. Et de manger mieux, de faire du sport, ça m'a réglé. Enfin, tu vois, là, je vais me coucher à 23h et je me lève à 7h.
Mais je crois que c'est hyper important, mais on en parle souvent dans les psychopathologies et tout, même. Le sommeil, c'est essentiel.
Parfois, le sommeil peut même être la cause de dépression. De toute façon, on sait quand on dort moins bien, on gère moins bien ses émotions. Donc, pour peu qu'on soit un peu anxieux, on peut être encore plus anxieux d'habitude. C'est des dérèglements qu'on retrouve dans plusieurs psychopathologies. Et parfois, juste régler le sommeil, ça règle plein d'autres choses à côté. Ouais. Alors, il faut des fois savoir si c'est en réglant, par exemple, la dépression que ça va régler le sommeil, ou si c'est, par exemple, des troubles du sommeil qui sont là depuis très longtemps, etc., qui font que la personne a fini par développer une dépression ou un trouble anxieux, etc.
Et je pense qu'en dehors même des psychopathologies, tu vois, l'hygiène du sommeil, c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, et hyper importante.
Ah mais oui, mais ça conditionne une partie du moral, entre guillemets. Enfin, c'est un peu
vraiment.
On part beaucoup moins dans les interprétations et dans les pensées négatives quand on est reposé.
Ouais. Oui, ce que j'allais dire, depuis tout ce changement, maintenant, tu vois, je suis beaucoup moins négatif, je suis beaucoup plus positif, je suis beaucoup plus de bonne humeur, productif, t'as envie de faire des choses. Enfin, en fait, ça m'a vraiment fait.
Ça aide pour la concentration, pour l'attention, etc.
Par exemple, il y a deux semaines, j'ai pas très bien dormi. Parce qu'en fait, moi, je fonctionne assez bizarrement. Si ma nuit du dimanche au lundi est d'une telle manière, toutes mes nuits de la semaine vont être de la même manière.
D'accord.
Donc, c'est merdique. Bref, et donc du coup, j'avais mal dormi la nuit du dimanche au lundi il y a deux semaines, et du coup, toute ma semaine était nulle. Et du coup, cette semaine, j'étais grognon, je voulais pas aller au sport, j'étais fatigué, alors que je faisais des nuits longues, mais pas réglées bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que, c'est pas le sport ou l'alimentation la clé, c'est le sommeil.
Mais t'arrives à être indulgent avec toi dans ces périodes, même si.
Non. Non, je me suis dit, toutes les choses toxiques qu'il ne faut pas faire, c'était qu'une merde, t'es allé qu'une fois au sport cette semaine et tout. Genre, c'est vraiment choses toxiques mauvais.
C'est que ça ne devienne pas un moyen de pression sur la santé mentale aussi.
Ouais, c'est compliqué d'avoir le bon équilibre. Même moi, le problème, c'est que quand tu arrives à un résultat, là pour le coup plus physique dans ce côté-là, en mode j'ai perdu tout ce poids, etc., t'as peur de le reprendre.
Et ouais.
T'as peur. Et du coup, tu te dis, oh, la pizza me donne trop envie, mais non, Richard, tu peux pas la manger sinon tu vas prendre du poids. Ou si tu vas manger un truc, tu vas faire, oh, je m'en veux, j'aurais pas dû, je vais tout reprendre et tout. Et c'est là où tu peux créer des TCA, clairement. Après, je pense que j'en avais déjà avant. Bon, on fait avec. Et ne prenez pas mon exemple, je parle de mon expérience. Mais en fait, c'est malgré moi, je le décide pas, c'est dans ma tête.
Mais tout ça, c'est comportemental. Alors, le sommeil, si on reprend le sommeil, il y a le sommeil, des fois, il y a des choses dans le cerveau, entre guillemets, qui font que le sommeil ne se fait pas. Et il faut éliminer toute cause organique avant de se lancer dans une psychothérapie pour le sommeil. Mais la TCC du sommeil, ça marche très bien, par exemple. Et c'est comportemental. Les TCA, c'est aussi, il y a beaucoup de choses dans le comportement qui montrent que, des fois en changeant de comportement, il peut y avoir une réduction des TCA, etc. Il faut faire attention aux restrictions dans les TCA. Il faut pas se restreindre vraiment, c'est le plus gros danger.
Et j'ai vite au max, je pense que c'est vu que c'est encore récent. C'était un peu.
Il faut pas se peser non plus. Le contrôle, franchement, le contrôle, le fait de... De toute façon, quand il y a une préoccupation au niveau du poids et que ça impacte l'alimentation et le sport, dans le sens où je fais du sport dans une visée de perte de poids, mais incessante, c'est des TCA. C'est-à-dire que dès qu'il y a une préoccupation au niveau du poids, ça va conditionner le reste des comportements, mais bien sûr que ça se prend en charge.
J'ai bien fait de venir, j'ai des TCA. Du coup,
non, mais il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux restrictions. Le cerveau, lui, il repère ces moments de restrictions-là.
C'est
des
apprentissages en plus.
Donc, pour peu que tu te restreins, tu fais attention, machin, et puis tu passes une journée de merde. Et puis, du coup, gérer la frustration quand t'as passé une journée de merde, par exemple, gérer cette restriction-là, mais tu vas pas le faire. Donc c'est là que tu appelles ça des craquages, que tu vas craquer et que tu vas du coup, peut-être manger un peu plus, du coup après culpabiliser parce que là t'as mangé un peu plus, que t'as pas su tenir, donc tu vas repasser par une phase de restriction. Enfin, et on peut durer longtemps comme ça en fait.
Mais après, moi je me dis c'est un peu une phase aussi d'apprentissage, tu vois. Je me dis aussi, c'est un peu le moment où je me dis, bah là j'ai atteint. Parce que moi, mon problème aussi, voilà, bon, pardon, des sujets divers et variés.
On t'avait dit, hein.
Oui, de ouf. Mon problème aussi, c'est que dès que je vais atteindre mon objectif, après je vais dire, bon, c'est bon, je l'ai atteint, je peux refaire n'importe quoi. Ce qui est totalement contre-productif, ce que ça s'appelle l'effet yo-yo. Ben, tu vois, là, je l'ai senti il y a 2 semaines. Je me suis dit, c'est une aise, Richard, t'es super fier de toi, t'as perdu temps, etc. Tu te sens bien. J'ai senti qu'il y avait un petit relâchement dans ma tête où je me suis dit, ben, c'est bon.
Quand tu dis les choses, quand, là, dans ce que tu viens de dire, tu corrèles ton bien-être à ton objectif, sans injonction aucune, mais moi, je sais que je me retrouve tout à fait dans ton discours parce que j'ai pu l'avoir complètement. Et quand mon objectif a été le bien-être, et plus le poids qui allait ou le physique qui allait me permettre de me sentir bien, ça a complètement
changé. Oui, j'entends, mais ce que je dis beaucoup aux gens, et ce que moi je me dis même à moi-même, c'est que c'est même pas que le bienfait physique que j'aime avec tout ça, c'est même les bienfaits dans ma tête. Ça me fait du... Enfin...
Oui, mais du coup...
Arrêtez, du coup, je me sens super
fan. Du coup, non. Non, justement, mais en fait, par contre...
Ça, c'est un mix des deux.
C'est juste que si, après avoir atteint ton objectif, tu lâches tout...
Bah non, mais il faut pas, mais ça c'est
entre guillemets, non, mais ça veut dire que juste avant t'en as peut-être trop fait en fait. C'est ça que je veux te dire.
Ouais.
C'est que
non,
si à un moment donné, peut-être que tu te dis, ok, mon objectif est là atteint, c'est bon, on peut relâcher. Après, tu sais, comme quand on a des partiels et qu'on on révise, et puis une fois que l'échéance est terminée, on enregistre et c'est bon. Bah, c'est un peu ça, mais ça veut dire aussi que peut-être que cet objectif il doit rester là parce que ça te fait du bien et c'est ok, mais peut-être que au quotidien, ne pas être aussi exigeant avec toi, aussi contrôlant avec toi et aussi dans la performance à ce niveau-là, parce que pour qu'à un moment donné t'aies besoin de lâcher à ce point et de faire n'importe quoi, si je reprends tes termes, c'est que juste avant tu t'es demandé trop. Tu vois, une telle exigence qui fait qu'à un moment donné tu ne peux pas la tenir sur la durée, c'est ça en fait le truc. C'est que du coup cette exigence-là elle est telle qu'à un moment donné t'as besoin qu'elle s'arrête parce que ça fait trop. Et donc peut-être qu'il faut revoir un peu à la baisse à ce niveau-là. Parce qu'au final, même si sur le moment t'es fier de toi, ben, la phase d'après, tu te dis, ben voilà, j'ai pas fait, j'ai arrêté. Et donc t'es moins fier de toi, ça réimpacte ton estime de toi. Et donc du coup, tu te dis, allez, il faut que j'y retourne. Et du coup, ça va faire le yo-yo aussi
dans ta tête.
Tu vois ce que je veux dire ?
Là, il se dit, qu'est-ce que je fais là ?
Moi, je me dis, il faut vraiment que ça fait des années, je dis, il faut que je prenne rendez-vous avec des psys.
Non, mais je pense que c'est important de trouver la façon de fonctionner qui sera la plus alignée avec toi sur la durée, c'est-à-dire quelque chose qui te fait du bien, mais tout le temps. Pas quelque chose que tu vas mettre en place là pendant 2 semaines à fond, et puis que, en fait, c'était cool, mais que c'est trop parce que exigeant,
moi,
tu vois.
Mon problème aussi, c'est que c'est tout ou rien. J'ai pas de demi-mesure, mais dans tout. Hein. Dans tout, dans mes relations, dans mon quotidien, dans ma tête, c'est tout ou rien. Je n'arrive pas à voir ce côté un petit peu. Non, c'est tout ou rien.
Ouais,
j'aime tout. Enfin, j'avais aimé totalement une personne où je vais plus l'aimer. Il n'y a pas de « je vais l'aimer un peu », je ne sais pas comment expliquer,
si.
Je suis très comme ça, je suis très extrême en fait.
Que tu sois extrême, ça à la limite, dans la mesure où ça ne te pose pas de problème, on s'en fout, tu
non,
vois ce que
ouais,
je veux
bah,
dire.
Bon, des fois c'est un peu chiant quand même.
Mais si ça te porte souffrance,
ouais, tu peux.
Alors il y a peut-être des choses à faire, tu vois.
Ouais. Ah.
C'est toujours la même chose en fait, c'est est-ce que ce qui se passe là, ça me va, est-ce que c'est ok, ou est-ce que... Non, en fait, ça me génère des émotions désagréables. Est-ce que du coup, c'est un peu compliqué pour moi à ce niveau-là parce que je sens que...
Après, moi, là, en tout cas, à l'heure actuelle, je me sens super bien. Tu vois, je suis pas en mode je me sens mal, etc. Quand je te dis que je culpabilise et tout, oui, mais enfin, je pense que comme tout le monde qui fait attention ou pas, quand il va s'enfiler quelque chose, il va se dire ou pas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire oh là là, j'ai abusé, etc. Mais c'est parce que c'est aussi, je sais pas. Bref.
Il veut sauter.
Ouais, je veux grave me justifier.
Non, mais pas du tout. Mais parce que, enfin, puis je te dis tout ça. En vrai, on sur un épisode de podcast et en fait, tu vois, on prend pas. C'est juste que c'est aussi pour les gens qui nous écoutent et voilà, de savoir que il faut écouter. Les gens qui nous écoutent, il faut s'écouter. C'est hyper important et en fait, tu sais ce qui est le mieux pour toi, tu vois. Tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour toi, quoi qu'il en soit. Mais c'est juste que, voilà, moi, quand je vois des variations comme ça, je dis juste fais attention à toi et à pas être trop exigeant avec toi, parce que j'ai pas envie que, voilà, que ça dégénère des choses plus compliquées après, tu vois.
J'ai été exigeant envers moi-même que pendant mes 3 premiers mois, je me suis dit, il y aura 0 cheat meal.
Ouais, tu vois, déjà, cheat voilà. meal.
Mais donc, du
oui,
coup...
Oui, je sais, déjà, c'est pas bon.
Mais donc, du coup, t'es dans la restriction.
Mais ouais, non, mais parce que je me suis dit, mais encore une fois, trop dur envers moi-même, je me suis dit, t'as fait des années de la merde pendant 3 mois, tu mérites pas. Ouais, exactement.
Mais c'est terrible.
En fait, la nourriture n'est pas...
La nourriture, ça ne se mérite pas, c'est un carburant.
Non, mais en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un besoin vital.
Oui,
tu te priverais. Non, mais est-ce qu'on te dirait. J'ai bu 4 verres d'eau, je vais.
Non, mais je mange. Non, mais attention, je mangeais. Mais je veux dire, des cheat meals, j'ai envie de dire, je m'autorise pas de pizza, de burger, de trucs comme ça. Sinon, je mangeais. Hein.
C'est ok, mais.
Je ne suis pas sous-alimenté.
Il faut voir vraiment ça comme l'eau ou l'air ou le sommeil. Qui font partie des choses vitales. Si on n'en a pas, on crève, en fait, hein, concrètement, si on manque d'eau, si on manque d'air, si on manque de sommeil. Et ça ne nous viendrait jamais à l'idée de faire des restrictions de sommeil ou de se faire des restrictions
d'eau. Surtout de hiérarchiser, en fait. Oui. Une pizza ne vaut pas moins bien qu'un brocoli. Tu vois ? Tout est, 'fin, et pourtant, j'adore le brocoli. Mais tout est question de... Tu vois, quand on dit l'équilibre, on a souvent cette image, parce que ça a été extrêmement véhiculé, que l'équilibre, c'est tu manges green, tu fais ton sport, tu te couches tôt, tu vas là, etc. Mais en fait, l'équilibre, déjà, c'est propre à chacun. T'as des personnes qui se retrouvent pas du tout dans un équilibre quand ils vont faire du sport ou quand ils vont voir du monde, parce que c'est le côté social, etc. Par contre, à partir du moment où il y a restriction, c'est-à-dire que ton équilibre, tu le conditionnes à quelque chose où t'as l'impression que bah, c'est dépendant du mérite que tu accordes et de ce que tu peux faire ou ne pas faire en fonction de, tu vois, ton comportement. Donc ça va avec ce que tu dis du fait que t'as toujours trouvé que t'étais exigeant avec toi-même. Et du coup, cette exigence, limite, quand on regarde, et je comprends totalement ce que tu veux dire, on se dit, mais en fait, je suis exigeant avec moi-même, limite comme avec personne d'autre. C'est-à-dire que se foutre la paix, c'est aussi, tu sais, on entend beaucoup de lâcher prise et tout, c'est un peu ce côté-là de se dire, en fait, je ne vaux pas moins bien le jour où j'ai mangé mes salades, mes pokés, etc.
C'est un vrai problème, plus de confiance en soi, persistance.
Mais je suis certaine que tu vas avoir envie de travailler ça, Richard, et tu vas te dire, il faut que je prenne ma santé mentale en
main. Ah, mais non, mais de toute façon, c'est quelque chose que je me dis depuis 2020, mais que... Enfin, en fait, je trouve que c'est compliqué de déjà... Enfin, c'est pas le fait d'aller voir un psy, parce que moi, je pense que... chaque Français devrait en avoir un. Mmh. Parce que c'est très démocratisé aux États-Unis, mais en France, c'est encore perçu comme pas normal. C'est-à-dire que t'es malade, que t'as des soucis. Alors que non, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre qui peut t'aider et qui a été formé pour ça, pour te faire comprendre des choses ou t'aider. Mais c'est juste que, tu vois, les démarches... Enfin, déjà, les démarches, que je... Enfin, pour moi, je sais pas si c'est comme sur Doctolib pour trouver un médecin, trouver un psy.
Ah ben, on va en parler. c'est bien, non, c'est important. Tu vois, typiquement.
Et tu vois, de trouver la bonne ou le bon. Moi, ça, déjà, ça pourrait pas être un homme, ça pourrait être une femme.
Il faut déjà assez bien que tu saches qui ça pourrait être. Hein. Oui. Voilà, à ce niveau-là, on peut avoir des critères, hein, comme quand on choisit un médecin, un gynéco, un spécialiste, qu'importe. Après, il faut essayer. C'est-à-dire, tu fais un rendez-vous, si au premier du rendez-vous, t'es mal, tu t'es pas senti écouté, etc., etc., ça veut rien dire du professionnel que t'as en face de toi. Simplement, il faut que tu trouves la bonne personne. Ressenti. Voilà. Avec qui tu te sens bien, c'est hyper important parce que ça va faire beaucoup dans la thérapie si tu crois pas en ton thérapeute et que clairement
Oui, et puis je dis vous parce que votre cabinet avec Loïc, vous consultez
votre secte.
vous les psychologues. Non, mais en tout cas, vous, Mathilde et Loïc, votre cabinet, vous consultez par exemple, je crois que c'est 80% de vos consultations en visio.
Ouais.
Et ça, la visio, par exemple, dans le domaine de la psychologie, il y a quelques années, c'était impossible. Enfin, on se disait que
pourtant, c'est dommage parce que ça rend quand même le soin hyper accessible. Exactement. Pour les personnes à l'étranger, pour même les personnes dans les campagnes, etc. Aussi. Mais
complètement, t'es chez toi, t'es dans tes repères.
Parce que moi, j'imagine encore, c'est le canapé.
Non, alors ça, c'est de la psychanalyse. A priori, on peut se voir en face à face, mais bon, même si certains aiment s'allonger, c'est complètement ok. Hein, mais après, voilà, il y a plusieurs spécialités en psychologie. L'idée, c'est quand même de trouver quand même un thérapeute, voilà, avec qui, je dirais, tu te sens bien et où tu as la sensation d'avancer.
Ouais, parce d'accord. C'est pas
si au bout d'un certain temps, t'es toujours en train de là de te dire mais j'avance pas et je suis toujours mal, ben c'est que peut-être il y a quelque chose d'autre à aller
trouver. Chaussures à son
pied. Donc, il faut trouver chaussures à son pied. C'est
alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Richard, pour ces 5 prochaines années à venir?
De l'argent, de la réussite et de l'amour.
Argent, réussite, amour.
Eh ben, ok.
Bon, j'ai envie de dire c'est le principal, non? Non.
Love, money and success.
Ouais, c'est ça.
Pour le coup, je sais, c'est comme les questions, tu te vois où dans 5 ans? Je sais tellement. Enfin, il y a 5 ans, je m'imaginais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Qu'est-ce que je souhaite tout pour? Non, bah, qu'est-ce qu'on peut être super bête. Être heureux. Oui, non, mais c'est important. Okay. C'est important, non, d'être enfin bien avec moi-même. Dans 5 ans, j'en aurai 31. C'est un peu l'angoisse. Non, 32 même, parce que j'en ai 27 cette année. D'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie, avec qui je me sens bien. Et d'avoir acheté un appartement. Et puis voilà, puis après, le reste en découlera. Enfin, mon côté perso est plus important que mon côté pro, même si c'est important. Hein. Mais je me souhaite plus de choses dans le côté personnel que dans le côté professionnel où je me dis ça viendra. Il y aura toujours quelque chose.
Bon, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup.
Merci, Richard. Moi, j'espère qu'on t'a pas trop traumatisé quand même dans cette émission.
Non, je pense pas. On se connaît avec Richard, donc c'est vrai qu'on dirait une discussion de potes au café du coin. Mais merci beaucoup, en tout cas.
Merci pour ton témoignage.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé.
Ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co.
À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.